La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour à tous.
On va rappeler qu'il est parfois difficile de connaître l'origine du nom d'une plante.
Et c'est le cas avec le Nepeta, qui était déjà ainsi nommé par Pline l'Ancien, mort, je vous rappelle, en l'an 79. Il se dit aujourd'hui dans les ouvrages de botanique que le Nepeta tiendrait son nom de Nepete, une ville d'Étrurie, à savoir l'actuelle Toscane en Italie.
L'actuelle Toscane que connaît bien Patricia Martin.
Mais je ne suis jamais allé à Nepete.
À Nepete, en Toscane.
Et d'ailleurs, une petite chronique choisie en pensant à Patrice Martin. Vous allez comprendre.
Ça va lui faire plaisir.
Non, vous allez comprendre pourquoi. D'accord. Dans un instant.
Alors, cette plante, donc Nepeta, est peut-être originaire donc de cette région du monde.
Ce n'est pas impossible, mais il faut tout de même savoir qu'il en existe près de 250 espèces originaires, le plus souvent d'Afrique du Nord, d'Asie et d'Europe, et donc pourquoi pas d'Italie.
Alors, le Nepeta dont on parle ce matin est le Nepeta cataria.
Et oui, vous allez comprendre tout de suite, Patrice Martin. On l'appelle aussi menthe des chats ou plus simplement encore herbe au chat. C'est un végétal qui atteint 1 mètre de hauteur, qui produit des feuilles caduques ovales d'un joli gris vert et qui fleurit le plus souvent bleu tout au long de l'année. On en trouve de deux sortes, à port dressé ou en couvre-sol, c'est-à-dire tapissante.
Vous pensez au chat que vous m'avez obligé à adopter, c'est ça?
Au chat que vous aimez en général, Patricia.
On va parler de notre vie privée un peu plus tard. Ce Nepeta, cette plante, elle fut longtemps appréciée pour ses vertus médicinales.
Oui, pour son feuillage qui donnerait, j'emploie le conditionnel, une infusion calmante et digestive. Il se dit même qu'il suffit de mâchouiller les feuilles pour calmer une rage de dents. Alors, dans le jardin, l'une des propriétés du Nepeta, et il n'y a aucun doute par contre, d'attirer les abeilles, car très mellifère.
Oui, attirer les abeilles et aussi attirer les chats, d'où son nom d'ailleurs de herbe au chat ou herbe à chat.
Oui, tout à fait. Et là encore, il n'y a aucun doute. Alors, beaucoup disent herbe à chat. Dans les ouvrages de botanique, je parle quand on parle de la botanique, la vraie botanique, on dit herbe au chat. On l'emploie au pluriel, mais l'herbe à chat est une appellation aujourd'hui couramment employée.
C'est celle que je connais le mieux, moi.
Dans les jardineries. Mmh. Alors, le Nepeta produit dans ses tissus de la mépété. Mais attendez, je reprends. Nepetalactone, un composé chimique qui fait réagir les félins, car semblable aux phéromones sexuelles perceptibles pendant la saison des amours. Sitôt, un matou voit-il un Nepeta qu'il se précipite, se roule dedans et ronronne joyeusement. Et, voilà. Et de repartir très vite, comme si de rien n'était. D'où mon conseil. Et oui, j'ai un petit conseil pour tous ceux qui se plaignent. C'est peut-être votre cas, Patricia, d'avoir des fauteuils ou des canapés endommagés par les griffes des petits compagnons. Quand vous avez des Nepeta dans votre jardin, il vous suffit tout simplement de frotter la plante contre un morceau de bois, un bois destiné aux griffes des chats, et je vous assure que c'est vrai, le petit animal se détournera de vos fauteuils pour aller directement vers la planche que vous avez préparée.
Ça c'est bon aussi pour vous, Eric, vous avez deux chats. Vous.
Je prends conseil et j'en prends note, c'est une question de phéromones donc.
Et tout à fait.
Alain Baraton, vos réponses, vos conseils aux auditeurs de France Inter. Jacques vous demande par exemple, quelle est la bonne distance, la distance idéale entre deux tuyas quand on plante une haie?
Minimum 1 mètre. On n'entend pas 1 mètre la distance qu'il y a entre les deux troncs des deux végétaux, bien évidemment. Jamais en dessous, parce qu'on a trop tendance à vouloir planter trop près. C'est le cas pour les arbres caducs, les arbres d'alignement et les tuyas, bien évidemment. L'arbre a besoin de lumière. Forcément, si vous le plantez trop proche de son voisin, il va grimper, se fragiliser et sera moins résistant aux maladies. Et il sera moins résistant. Il faut bien comprendre que plus un végétal développe de branches, donc de feuilles, plus il est à même de capter la lumière du soleil et donc de pratiquer la photosynthèse. Donc 1 mètre minimum. Moi, personnellement, si je devais planter des tuyas, ce que je ne ferais d'ailleurs pas, je préfère les arbustes à fleurs, mais je me mettrais à 1m20, 1m40. Ce n'est pas grave s'il y a un petit peu d'espace entre les végétaux.
Il faut laisser passer la lumière.
Ça se comble rapidement.
Alain vous demande, quelle est la meilleure saison pour planter un nénuphar?
Eh bien, la meilleure période pour planter les végétaux aquatiques en général, c'est l'été, tout simplement l'été. Et j'en profite également pour rappeler, parce que je reçois beaucoup de questions en ce moment sur le nénuphar, où on s'étonne qu'il perde ses feuilles. C'est normal, le nénuphar perd ses feuilles à l'automne, le végétal est caduque. Sachez aussi sur le nénuphar, pour être encore plus complet, qu'il ne craint pas le froid. Donc petit bassin, gelé moins 15 pendant un mois, le nénuphar dans la queue fer, il repartira au printemps. Par contre, ceux qui s'étonnent de la disparition rapide des feuilles de nénuphar en ce moment ou en été, ce n'est pas le froid, ce sont les ragondins qui se délectent de leur feuillage.
Et on ira voir ou revoir les nénuphars des bassins de Giverny.
Ah, c'est magnifique, vous avez raison de le signaler.
Aline vous demande, est-il encore possible de semer de la mâche ?
C'est, nous sommes en pleine saison. La mâche est l'une des salades, je crois, parmi les plus délicates. Et j'en profite pour rappeler que quand vous êtes propriétaire d'un jardin potager, vous n'avez aucune raison de ne pas en semer pour une raison simple. Aucune préparation de sol ou à peine. Vous nettoyez rapidement le terrain, un coup de râteau. Vous semez la mâche en surface, un petit coup de griffe, mais à peine. Vous arrosez, vous attendez, vous récoltez et vous dégustez.
Et chez les baratons, qui lave la mâche? Alors, madame ou monsieur? Parce que c'est assez long à laver quand même.
Ce n'est jamais monsieur, il paraît.
Eh bien, ne détrompez-vous, j'ai la chance de manger effectivement des légumes sains, garantis sans produits, et un traumatisme d'environ 3 ou 4 ans a fait que j'étais à deux doigts de croquer une énorme chenille verte. Depuis, je lave moi-même tous les légumes que je consomme.
Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, ça.
Il ne fait même pas confiance à sa femme, non mais je rêve.
Si, mais simplement, ça m'a tellement marqué, parce que cette chenille était absolument énorme, que vraiment, c'était terrible, donc je fais vraiment très attention, et j'aime bien, tout comme j'adore faire la vaisselle.
Donc, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Mais quand on sait ce qu'on sait, enfin bref.
Oui, allez. Oui,
Colette vous demande, puis-je creuser une tranchée profonde de 50 cm à 3,50 m du tronc d'un tilleul et d'un marronnier?
Logiquement, oui, quoique le marronnier est toutefois un peu plus fragile que le tilleul. Il est donc possible, quand il n'y a pas moyen de faire autrement que de creuser une tranchée pour l'installation, par exemple, d'une canalisation. Attention, je rappelle, je le dis tous les ans d'ailleurs, si vous avez la chance, que dis-je, l'immense bonheur d'avoir un vieux être pourpre, aucune canalisation à proximité, aucune tranchée, vous prenez un vieil être, surtout s'il est pourpre. Vous creusez une tranchée, allez, vous effleurez une des racines, l'arbre meurt dans les années qui suivent, c'est absolument inévitable. Donc on peut creuser, mais avec beaucoup de prudence.
On termine avec un conseil lecture.
Une revue, Salamandre, c'est la revue des curieux de nature, elle fête cette année ses 35 ans, c'est toujours passionnant à lire, cette revue destinée aux jeunes et aux moins jeunes.
C'était La Main Verte d'Alain Baraton. À demain Alain.
À demain.